Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ceux qui habitent ce siècle sont passés de la civilisation de l'écrit à celle de l'écran. Et c'est une révolution bien plus radicale et définitive qu'il n'y paraît, car l'ère numérique absorbe nos vies et pilote nos cerveaux. Je reçois Bruno Patino, président d'Arte, qui a fait paraître chez Grasset, après le triomphe de son premier essai, donc La civilisation du poisson rouge, Tempête dans le bocal, un traité édifiant sur notre dépendance au monde connecté et donc au temps connecté. Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Bruno Patino, on vit dans un monde surconnecté où il n'existe plus de temps inutile. Temps inutile, c'est propice à l'imaginaire et à la réflexion. Les écrans des smartphones et des tablettes qui absorbent nos vies n'ont pas seulement créé l'addiction. En fait, ces écrans ont créé l'impatience.
L'impatience ou en tout cas le fait d'avoir une vie en permanence hachée par des sollicitations. En réalité, la dépendance, elle tient, c'est un mécanisme qui tient au fait d'être sursollicité en permanence. Et donc, quand on a l'impression qu'on ne reçoit pas une impulsion sur notre écran, il ne se passe rien. Donc, je raconte souvent l'anecdote, je fais du numérique depuis très longtemps maintenant. Au début de l'ère numérique, souvent les spécialistes nous disaient pas plus d'une alerte par semaine, parce que sinon on va être totalement lassé et surtout on va être submergé.
Et en moyenne, on en reçoit combien
aujourd'hui, plus d'une cinquantaine par jour. Plus d'une cinquantaine par jour. Donc, comme vous savez, la grenouille portée à ébullition petit à petit dans une casserole d'eau qui devient bouillante sans qu'elle s'en rende compte, on est devenu ça, c'est-à-dire des êtres humains, l'œil rivé sur l'écran du smartphone, en attente de sollicitations permanentes, comme pour nous rappeler qu'on est en vie.
Alors, les ordinateurs de Google ont réussi à estimer le temps d'attention sur l'écran justement d'un smartphone. Concernant la génération des millénials, c'est-à-dire en gros ceux qui ont entre 23 et 35 ans, la capacité de concentration de cette génération est de, dites-vous, dans votre livre, 9 secondes. Au-delà, le cerveau décroche, il faut un nouveau stimulus. Au-delà de 9 secondes, donc tout est zappé. Il y a donc l'addiction, il y a l'impatience, et puis tout ça, ça génère une frustration sans fin.
En fait, c'est l'image, et c'est une histoire réelle, c'est-à-dire que je raconte comment, dans un séminaire organisé par Google, on nous avait montré effectivement cette image d'un poisson rouge pour nous dire la fameuse attention du poisson rouge, alors que ce soit vrai ou faux, j'en sais rien, c'est 8 secondes. En revanche, celle des millénials, et là c'est clairement calculé, elle est de 9 secondes, donc tout près du poisson rouge.
Il y a dû y avoir un grand silence dans la salle.
Oui, mais là où ça m'apparaissait très intéressant, c'est qu'il y avait une double réception par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'ingénieurs disaient « Ok, il faut qu'on travaille pour envoyer un stimulus chaque 9 secondes, parce que sinon, effectivement, la personne décroche. » Et d'une façon ou d'une autre, quand vous regardez l'accélération des plans dans un film de cinéma, à quel point certains films sont devenus stroboscopiques.
Ah oui, dans les blockbusters, c'est terrifiant.
Voilà, à quel point on ne laisse plus du tout le temps au plan de l'image de s'installer. Ouais. À quel point les chapitres raccourcissent dans les romans qui nous sont proposés aujourd'hui. À quel point toujours il faut, comme on dit, un cliffhanger dans une série de plus en plus rapproché pour, d'une certaine façon, vous réveiller. Vous savez, moi, ça m'a rappelé, quand j'étudiais la musique, on nous rappelait souvent l'exemple de cette symphonie qui s'appelle La Surprise, qui avait été composée par Haydn. Et Haydn trouvait que souvent, les gens qui écoutaient sa musique s'endormaient. Et donc, il avait décidé, toutes les X mesures, de mettre un grand coup de cymbale pour réveiller les gens. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive, en fait. On est dans une symphonie de la surprise permanente. On a un petit coup de cymbale au cinéma, en littérature, devant la télévision et évidemment, avant tout, devant le smartphone.
Voilà. Et alors, on est 5,5 milliards de personnes, donc près de 70% de la population mondiale a possédé un smartphone. Donc 5,5 milliards de personnes sont connectées aux GAFAM, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. Et on sait que, par exemple, les jeunes Américains passent, le chiffre est officiel, 8 heures quotidiennes sur l'ensemble de leurs écrans connectés. Donc la vie vraie est en train de devenir une chimère, car, par exemple, quand on est sur Instagram, on vit par procuration la vie des autres.
Oui, mais encore une fois, il faut bien voir, il y a deux choses. D'abord, on espère en tout cas d'une pandémie, et j'essaie de l'expliquer dans Tempête dans le bocal, quand même les écrans, d'une certaine façon, nous ont sauvé la vie à ce moment-là. C'est-à-dire la connexion.
Mais il n'y avait plus que ça. Et en même temps, le phénomène funeste s'est accéléré.
On est d'accord, vous avez absolument raison, c'est-à-dire c'est les deux choses en même temps. D'une part, ça nous a permis d'être, certes, confinés, mais pas reclus. Quand on était chez nous, on n'était pas isolé de tous, de tout. Je ne vais pas reparler ici des apéros Zoom, de la façon du télétravail, de l'étude par télétravail. Mais en même temps, ce que vous dites et ce que j'essaie de décrire, parce que avant tout, moi, ce qui me plaît, c'est évidemment d'expliquer et d'analyser, mais c'est aussi de raconter ce qu'est devenu notre vie, en fait. Ça tient certes un peu à la technologie, mais ça tient à, en fait, une alliance de la technologie et d'un modèle économique. En fait, c'est très, très simple. Les grandes plateformes gagnent leur vie par notre temps d'attention, c'est-à-dire par le temps qu'elles sont capables de nous prendre. Donc le paradoxe, c'est qu'elles nous rendent service pour nous socialiser, nous faire trouver des choses très rapidement, nous mettre en contact avec ce qu'on croit être la vie des autres à un moment donné, même si elle est souvent reconstruite par un filtre. Mais pour se rémunérer de ce service qu'elles nous rendent, eh bien elles nous prennent du temps d'attention pour nous proposer des messages publicitaires. Le problème, si j'ose dire, du smartphone, il est triple. Le premier, c'est que vous êtes connecté en permanence. Donc, on est capable d'essayer de capter votre attention 24 heures durant, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, ou en train de travailler ou d'étudier. La deuxième chose, c'est que ces outils connaissent des choses individuellement sur vous-même grâce aux données individuelles que vous leur transmettez sur vos goûts, votre comportement.
Et comme ils ont toutes les données sur nous, eh bien, on est devenu prévisible par le calcul des algorithmes.
En tout cas, ils essayent de ils nous calculent et ils essayent de nous prévoir. Et le troisième point, et c'est là que c'est, à mon avis, intéressant, j'essaye de raconter comment, justement, à partir de ces données-là, on utilise un certain nombre de règles assez connues des neurosciences pour nous rendre un peu, il faut bien le dire, dépendants des écrans. Et donc, on utilise des mécanismes connus depuis très longtemps, qui sont les mécanismes qui régissent le fonctionnement des machines à sous de casino, exemple.
Mécanismes ou d'autres choses. Mécanismes de l'addiction.
Pour qu'à un moment ou un autre, on n'ait plus envie de décrocher, ou plus exactement, on ne soit plus capable de décrocher. Et donc, c'est l'addition de ces trois éléments qui fait qu'à un moment donné, vous rentrez, vous êtes quelque part sur un quai de métro, tout le monde est devant l'œil rivé de son smartphone. Vous êtes
terrifiant.
Au restaurant, vous voyez un couple qui déjeune et pourtant chacun d'entre eux ne regarde son smartphone sans être capable de s'adresser la parole.
Bon, alors soyons francs, Bruno Patino, quel est le but final, par exemple, de Google ?
Mais, encore une fois, le Google, Facebook, enfin on l'appelle Meta aujourd'hui ou les autres, ce sont d'extraordinaires sociétés mais qui, comme toute société commerciale, veut à un moment donné augmenter son chiffre d'affaires. Et pour augmenter son chiffre d'affaires, il faut qu'elles augmentent le plus possible le temps qu'on passe chez elles. Et donc, le but qu'elles ont en ce qui nous concerne, nous les individus, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur leurs outils.
Bon, les réseaux sociaux ne connaissent ni frontières ni contre-pouvoirs. Ils ne forment pas un territoire. Ils fragilisent les démocraties et ils sont une promesse d'émancipation, on va dire, au contraire, dans les dictatures. Peut-être le cas de la Chine est particulier.
Oui, la Chine, c'est un système qui s'est isolé du monde en étant un monde à lui tout seul. C'est-à-dire que le fonctionnement numérique de la Chine est un fonctionnement, alors certains l'appellent d'un ultra-capitalisme numérique de surveillance en réalité. C'est-à-dire que le numérique est utilisé là-bas pour à la fois avoir des outils nationaux et pas du tout internationaux ou interconnectés, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, avec le reste de la planète, contrairement à ce qu'on a là. Donc, ils ne connaissent pas un ensemble d'outils qui sont ceux de toute la planète. Et la surveillance, en tout cas, le pouvoir sur ces réseaux-là est totalement centralisé. Donc là, on est dans un autre univers numérique. Pour certains, c'est une sorte de dystopie, c'est-à-dire de futur négatif. Je ne crois pas du tout qu'il n'y ait qu'un seul destin numérique à l'humanité. Il y aura beaucoup de sociétés numériques possibles.
Notre cerveau est donc piloté par les plus grandes multinationales et on ne repartira pas en arrière. Notre réflexe, le matin au réveil, effectivement, c'est de consulter nos mails, nos SMS, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Et la dépendance va s'aggraver car il faut nous parler maintenant du projet de métaverse, notamment porté par Facebook.
Alors le métaverse, c'est quelque chose d'étrange parce que c'est à la fois un très vieux projet et un projet tout nouveau. Très vieux dans sa philosophie, parce que pendant très longtemps, quand le numérique est arrivé au début, on va dire, au milieu des années 90, on s'est dit, tiens, il va y avoir un monde virtuel. Et en réalité, c'était une époque, au début des années 2000, où on disait, il y a la réalité, on disait, on va se rencontrer IRL, in real life. c'était l'expression qu'on avait. Et puis après, on avait la vie connectée, la vie virtuelle, et on imaginait qu'on allait vivre par l'intermédiaire des avatars. Et puis, la connexion permanente a fait qu'il y a eu justement une interconnexion entre nos vies réelles et nos vies numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation réelle entre notre activité, notre vie, hachée toujours par ces signaux-là, réels et numériques, l'un est le prolongement de l'autre, ça s'encastre. Aujourd'hui, donc, on revient au métaverse, c'est-à-dire l'idée à un moment donné qu'avec des casques de connexion, des outils spécifiques, il se créerait un monde parallèle dans lequel nous vivrions par l'intermédiaire d'avatars. Alors, ce sont des
choses... Mais un monde qu'on choisirait, qu'on nous proposerait, qu'on achèterait.
Mais c'est toute la question.
Mais c'est comme marcher dans nos rêves. En fait, le métaverse, il existe quand on dort, quand rêve.
Oui, mais là, vous en êtes, si j'ose dire, l'opérateur ou l'opératrice inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous-même qui décide de créer ce métaverse-là dans vos rêves. Là, c'est quelque chose à la fois de vertigineux et de limité. De vertigineux dans sa philosophie, puisque quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, donc de Meta, parle du métaverse tel qu'il l'imagine, il imagine en fait réellement un univers parallèle accessible à tout le monde qui serait opéré par Facebook et dans lequel nous pourrions faire cette interview en ce moment. Votre avatar m'interviewerait dans un studio qui serait totalement virtuel.
Et votre avatar répondrait.
Et bien sûr, votre avatar interviewerait mon avatar et dans un studio qui n'aurait aucune réalité tangible. Et ce serait la même chose pour l'éducation, ça serait la même chose pour beaucoup d'autres actions de notre vie. Et tout ça, ce métaverse opérerait plein de petits métaverses aussi, puisque aujourd'hui, il existe plein de petits métaverses. Et donc, on est dans l'idée d'un monde parallèle.
Où on se téléporte.
Oui, d'une certaine façon, via un avatar. Et donc là, on peut dire, bon, là, on est sur un projet de dingue qui consommerait une énergie folle, qui supposerait quand même qu'un acteur, à un moment donné, devienne dominant, entre guillemets, pour proposer cette interconnexion des mondes parallèles pour n'en faire qu'un.
Mais ça semble bien progresser parce qu'il commence à y avoir de la pub sur les chaînes de télé pour justement le métaverse. C'est incroyable, j'en vois tous les jours.
Et vous avez mentionné le fait que je travaillais à Arte, nous avons fait un concert dans le métaverse.
Mais oui,
mais je vais y venir.
Mais bien sûr, j'avais l'intention de vous en parler tout à l'heure.
C'est-à-dire que si vous voulez, cet univers presque absolu, on le retrouve dans un film de Spielberg, lui-même dérivé d'une certaine façon, d'un roman qui s'appelle Ready Player One, où on voyait toute une société ou une civilisation réduite à des conditions de vie épouvantables à cause de pollution, de misère ou autre, et qui vivait toute sa vie par procuration, entre guillemets, avec des lunettes connectées dans un univers gamifié aussi, qui était un jeu immense. Qui était un univers parallèle et métaverse. Je dois dire que ça, c'est une vision très négative. Vous avez aujourd'hui des projets tout à fait étonnants, utopiques, de gens qui disent on va bâtir la planète B, quoi, une planète stère parallèle, mais qui serait une planète sans pollution, sans réchauffement climatique. Ça, c'est, si vous voulez, le projet alors philosophique ou démiurgique, on peut l'appeler ça, du métaverse. La réalité aujourd'hui, elle est beaucoup plus tangible. Elle tourne autour vraiment de deux petits univers, mais qui ont leur importance. La musique, le spectacle vivant, le théâtre, le divertissement d'un côté et le jeu de l'autre. La médecine, pour le moment, la médecine, en métaverse, on va sans doute y arriver. De toute façon, aujourd'hui, les consultations par écran interposé, bientôt les opérations par robot interposé, on y arrive sur cette dématérialisation. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut bien avoir conscience que on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, des écrans qui nous ont capté notre temps dans ce projet de société numérique. On s'attache à l'espace maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps qu'on a conquis et maintenant il y a une tentative de conquérir l'espace en créant un nouvel espace qui serait ce métaverse-là. En ce qui me concerne, je crois que pour les années à venir, en tout cas 3, 4, 5 ans, on va voir beaucoup de traductions de ce métaverse dans le domaine de la musique et des spectacles. Et d'une certaine façon, le spectacle d'ABBA à Londres, c'est une préfiguration, j'allais dire presque tangible ou réel, de ce que nous appelle ou de ce que nous promet le métaverse du point de vue des spectacles. Donc là, je crois qu'on va avoir vite des conséquences tangibles dans le domaine de l'éducation, du travail, de la socialisation, de la vie en société.
Il faudra attendre un peu.
Il faudra attendre un petit peu.
Pour reprendre la conversation qu'on vient d'avoir absolument passionnante sur le métaverse, on sait que Mark Zuckerberg travaille là-dessus, Elon Musk. En fait, qui vous inquiète le plus ? Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos ?
Les trois m'inquiètent en réalité, mais pour des raisons différentes. Je pense que Zuckerberg est inquiétant par le fait qu'il a inventé quelque chose, Facebook, qui, sans s'en rendre compte, en fait, produit beaucoup de dommages sur nos démocraties, je le pense, et en tout cas aussi, de temps en temps, a produit beaucoup de désordres dans nos vies individuelles. Bezos a révolutionné l'économie et je ne suis pas sûr que le tissu urbain économique
lui en ségré.
Quant à Elon Musk, je pense qu'il est d'une façon ou d'une autre la quintessence aujourd'hui. Moi, je ne sais jamais si Elon Musk est un réel démiurge ou une rockstar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il invente des choses qui changent la vie, la voiture, Tesla et autres.
Mais des choses qui fonctionnent.
Des choses qui fonctionnent. Il se comporte de temps en temps comme une rockstar, c'est-à-dire sur Twitter, ce qu'il a fait, j'achète, j'achète pas, je rachète, etc. Pour moi, ça ressemblait à une rockstar qui saccage sa chambre d'hôtel.
Ouais.
Mais en même temps, ces trois-là, ils sont démiurgiques, quoi. C'est-à-dire cette volonté de vouloir aller dans l'espace, certains pour coloniser l'espace, d'autres pour s'en échapper simplement, ou le troisième pour créer un univers parallèle avec les métaverses. Vous dites quand même que les trois sont inquiétants parce que la planète dans laquelle on vit n'a pas l'air soit de leur suffire, soit de les satisfaire.
Ah, c'est certain.
Or, moi, j'aimerais beaucoup avoir des grands chefs d'entreprise, penseurs ou autres, qui pensent avant tout à la planète que nous habitons tous et au moment où nous habitons tous.
Alors repartons dans l'analyse justement de notre monde connecté. Au début du nouveau monde numérique, il n'y avait pas le verbe, il y avait le calcul. La civilisation des mots a donc cédé sa place à un langage composé de codes. Alors je vous pose la question, la fin des mots n'est pas encore actée, mais est-elle prévisible dans l'ère numérique ? Le calcul va remplacer le langage ?
Mais pour moi, le combat politique, au sens noble du terme, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit mettre un terme à l'extension infinie du domaine du calcul. Parce que malgré tout...
On doit y mettre un terme.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on doit préserver des endroits du calcul. C'est-à-dire que là, le numérique, évidemment, se nourrit. C'est un langage qui se nourrit. Alors le numérique, c'est vite dit comme ça, mais... Toute la civilisation des données n'a de sens que si on donne de l'intelligence à ces données. Et donc, à un moment donné, on est capable de calculer, de mettre en relation les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on voit jusqu'où ça nous mène en termes de calcul. Et moi, je pense toujours que je dis à un moment donné, en tout cas, les grandes plateformes sociales, c'est l'alliance du calcul et du jeu permanent. C'est-à-dire qu'on nous infantilise dans les interfaces. Et moi, le premier, je les utilise. Et je suis un des premiers utilisateurs de ça et sans doute un des premiers dépendants par rapport à cet écran-là. Et tout en nous infantilisant, on nous calcule pour essayer de nous prévoir. On nous prévoit d'ailleurs très, très mal parce que ni vous ni moi ne sommes totalement prévisibles. Et c'est très, très heureux. Mais cette tentative-là...
C'est ce qui nous reste de notre part d'humain.
Mais c'est considérable. C'est-à-dire quand vous regardez pour le moment aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'IA, mais on a raison. Mais j'allais dire, la façon dont les IA nous calculent, sur certains points extrêmement précis, c'est d'une précision diabolique. Dès lors que ça essaye de nous calculer dans notre ensemble, c'est dérisoire et c'est infantilisant.
Mais Bruno Patino, par exemple, alors quand tout ce qui fonctionne par intelligence artificielle, justement, sera autonome, sachant que les machines s'échangent leurs données et leurs savoirs, bon, on sait qu'on ne reviendra jamais en arrière.
Oui, mais encore une fois, on ne va pas basculer dans Terminator. C'est-à-dire, je ne pense pas que les machines, à un moment donné, vont prendre l'espace pour les humains. En fait, la question...
Vous êtes optimiste ?
Je ne suis pas pessimiste.
C'est-à-dire
que je pense quand même qu'on a notre mot à dire. Et effectivement, le verbe, le mot, le concept... Mon livre « Tempête dans le bocal » se termine par cette idée de se balader simplement les mains dans les poches, ça veut dire pour ne pas avoir son smartphone en
greffé
main,
à la main.
Greffé à la main et le regard tourné vers le ciel. C'est parce que je pense que tout l'humain, évidemment, c'est une banalité de le dire, mais n'est pas calculable. Et que donc, dans nos vies quotidiennes, dans notre assaise quotidienne, si j'ose dire, par rapport aux écrans, le fait d'avoir des moments où nous ne sommes pas calculés, nous ne soumettons pas au calcul, de façon collective, le fait de ne pas faire rentrer tous les choix collectifs, éducation, orientation ou autre par le calcul, est quand même une question de civilisation.
Alors, on ne parle que de calcul. Je vous demandais si les mots allaient disparaître. Mais que va-t-il advenir de la littérature, justement, quand l'intelligence artificielle aura progressé au point d'avoir l'emprise absolue? C'est dans la littérature qu'on trouve la transcendance, c'est pas dans les calculs. Et que va devenir notre imaginaire quand on vivra dans un monde exclusivement fabriqué par le numérique?
Mais c'est bien
Il va nous rester quelle place
Mais
alors
c'est...
pour le rêve fou, le lâcher prise?
Mais c'est bien pour ça que je suis pas pessimiste. Hein. C'est-à-dire que je pense que la condition du calcul absolu qu'on peut nous préparer sans d'ailleurs que ce soit un complot mondial, mais juste parce que c'est une mécanique ou on va dire un élan qui est posé comme ça, va arriver à un moment donné. Ça arrive déjà d'ailleurs. Le livre que je tempête dans le bocal essaye de montrer qu'il y a des choses de sens contraire, c'est-à-dire qu'il y a des freins qui sont posés de temps en temps par des autorités politiques, par les utilisateurs, par des usagers ou par d'autres, et on sent bien qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de ça. Et donc, si vous prenez un parallèle en disant, bon, fin du 19e siècle, la société industrielle arrive et on pense tous qu'on va devenir, à un moment donné, pour la très grande majorité d'entre nous, esclaves de la production industrielle qui va absolument tout absorber à un moment ou un autre, et pour une extrême, infime minorité, j'allais dire, les maîtres de cette civilisation industrielle, on voit bien qu'à un moment, sans pour autant être ravi de la crèche, mais qu'il y a eu des freins, des canalisations, des moments où des espaces hors production ont été gérés. Donc je pense qu'on est dans ce moment-là. Je crois vraiment que, on parlait de Spielberg tout à l'heure, les deux films qui sont les pôles noirs, si j'ose dire, du cauchemar numérique, c'est Minority Report, évidemment, dans lequel... vous êtes condamné, non pas pour quelque chose que vous avez fait, mais pour quelque chose que vous alliez faire compte tenu de ce qu'on sait de vous. Voilà, vous alliez commettre un crime dans 48 heures, on vous arrête avant, et parce que vous êtes parfaitement prévisible. Et l'autre qui était Ready Player One, c'est-à-dire on vit toute sa vie par procuration par les écrans, ça c'est la...
Ça concerne déjà pas mal de gens. Hein.
Oui, c'est la dystopie finale, mais en même temps, si vous voulez, le fait même que ces dystopies existent, ça veut dire que la prise de conscience a existé, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, non pas le retour de balancier arrive, mais quand même il se prépare. Alors tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'est pas automatique, ça nécessite que nous agissions tous, individuellement et collectivement, mais je pense qu'on peut penser qu'il va avoir lieu.
Bruno Patino, est-il vrai que dans votre bureau de président d'Arte est accrochée une curieuse horloge dont les aiguilles tournent à l'envers sur une numérotation inversée, comme une sorte de métaphore du temps qu'on voudrait tous retenir?
C'est tout à fait vrai. En fait, ça a une petite histoire étonnante. Il se trouve que je suis français par ma mère, mais bolivien par mon père.
Oui.
Et que quand Evo Morales a été élu en Bolivie, c'était la première fois qu'un Indien Aymara arrivait au pouvoir en Bolivie, il a décrété que le sens des aiguilles d'une montre telle que nous le connaissons est valable, évidemment, dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud.
C'était en 2014-2015
Par là, oui. La rotation de la Terre impulsait un mouvement de sens contraire. Donc, il a dit que, voilà, il fallait faire une montre anti-impérialiste, entre guillemets, et avoir des horloges qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tu sais, dans le sens normal pour l'hémisphère sud. Et il a mis ses horloges sur les palais nationaux, palais présidentielle, le parlement ou autre. Et cette horloge, c'est vrai que quand j'ai voyagé dans ce pays, qui est aussi mon pays d'origine, et notamment avec mes deux filles, elles ont vu la fascination qu'exerçait sur moi cette horloge. Donc elles m'ont offert une réplique qu'il y a dans mon bureau. Mais comme elles m'ont offert aussi une montre de 25 heures, je me dis que je dois avoir un problème avec le temps. Et que ça doit être un message subliminal.
Bah dites-moi, vous êtes quand même très doué parce que vous êtes arrivé en avance à ce rendez-vous donc pour cette conversation sur Europe 1. Donc vous savez parfaitement jongler avec tout ça. Alors, le temps, justement, Bruno Patino, vous savez le remplir mieux que personne, tout en donnant l'impression, comme Dorian Gray d'ailleurs, de ne pas vieillir. Vous avez dirigé le monde interactif, dirigé Télérama, France Culture, le développement numérique de France Télévisions, vous avez dirigé la 5, et vous êtes aujourd'hui le président d'Arte France et Arte Allemagne. Mais vous êtes un citoyen du monde, puisque effectivement, vous venez de nous le dire, vous êtes d'origine bolivienne, votre papa, chef d'orchestre, a quitté son pays, la Bolivie, à l'âge de 39 ans, et vous confiez « J'ai cessé de rêver en espagnol à la mort de mon père ».
Ah oui, ça, j'ai dit ça il y a longtemps, mais c'est tout à fait juste. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'étais élevé à la fois en français et en espagnol, hein, mais effectivement, quand mon père est décédé, je ne rêve plus qu'en une langue aujourd'hui, ça c'est vrai. Ça c'est parti, vous voyez. Comme quoi vous parliez des rêves comme notre métaverse personnel.
Voilà.
Il y a une langue qui a disparu de mon métaverse personnel. Ouais.
Incroyable. Alors l'année de vos 18 ans, alors que, je le précise, vous êtes né en France, votre père, paraît-il, vous a poussé à arpenter sac à dos l'Amérique latine pour retrouver vos racines. Vous l'avez vécu comment ce voyage qui avait tout du voyage initiatique?
Oui, en fait, mon père n'était jamais revenu après avoir quitté la Bolivie.
Ah, jamais.
Et donc il a décidé d'y envoyer son fils.
En éclaireur.
Oui, exactement. Figurez-vous, c'est un très bon mot, puisque c'était le mot qu'il utilisait lui-même. C'est en éclaireur avant mon retour. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sac au dos sur ce continent, et surtout en particulier après Je l'ai fait de long en large, ce continent, à de multiples reprises, mais effectivement, lorsque j'avais 17 ans, surtout Pérou et surtout Bolivie, et donc l'ensemble du... Et en fait, je l'ai vécu comme le vivent, je pense, les gens qui ont une double culture, et quand ils sont enfin en contact avec cette culture dont ils ont toujours entendu parler et qu'ils n'ont jamais vraiment vue.
Mais alors, la Bolivie ressemblait à ce que vous imaginiez ou pas du tout?
Ah, c'est une très bonne question. Non. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens que j'y ai vus, oui, totalement. Bah, parce que d'abord, mon père était indien Aymara, donc bolivien. Donc voilà, je m'attendais à... Disons que la façon dont il parlait, d'y s'exprimer, etc. Mais le lieu, non, le lieu était d'une beauté à couper le souffle, hein. D'une pauvreté aussi pour certains endroits. Quand vous venez de la région parisienne, évidemment, vous prend aux tripes. Hein. Et sur ces deux aspects-là des choses, j'y étais, on va dire, intellectuellement préparé, mais pas affectivement. Donc voilà, donc ça ressemblait à la fois oui et non. Mais il y avait une sorte de familiarité immédiate, oui, bien sûr.
Ouais. Bruno Patino, vous avez aussi le don d'être là où se joue l'histoire. Parce qu'un peu plus tard, poignée d'années plus tard, après ce voyage initiatique en Bolivie, c'est en Allemagne qu'on peut vous retrouver, en Allemagne, au moment où tombe le mur de Berlin. Vous y étiez pour votre service civil. De quelle façon vous avez participé à l'euphorie? D'ailleurs, avez-vous participé à l'euphorie?
Alors, oui, c'est un hasard total, hein. C'est-à-dire qu'on vous envoie à un moment donné en service civil en Allemagne, vous faites la tête parce que personne n'a envie d'aller en Allemagne, je suis désolé pour mes amis allemands, aujourd'hui je travaille avec
ben
eux
oui.
50% du temps, mais on va dire que moi à l'époque j'espérais partir en service civil en Amérique latine et me voilà parti pour Düsseldorf. L'euphorie, non, d'abord parce que moi je logeais au dernier étage d'une maison et d'un couple allemand. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est effectivement des Allemands de l'Ouest, beaucoup plus circonspects que ce qu'on peut imaginer sur la réunification qui venait, en se posant la question.
Beaucoup moins euphoriques que les Allemands de l'Est.
Certainement. En revanche, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous avez conscience, vous, mais tout le monde, hein, que l'histoire est en train de se faire, comme on l'avait dit. C'est-à-dire que là, on sait qu'on ne vit pas un truc normal, quoi.
Alors, votre carrière dans la presse, elle est impressionnante. Votre premier fait d'armes, je pourrais dire d'ailleurs votre première médaille, étant la mise en place du site web du journal Le Monde avant l'année 2000, donc en devinant avant les autres la disparition du modèle imprimé. J'imagine que certains journalistes ont dû vous maudire, non?
Alors,
vous avez dû les inquiéter. Ils ont dû se dire, Bruno Patino va faire disparaître notre journal papier.
Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui nous ont maudits et beaucoup qu'on a inquiétés, sans le vouloir. Deux, on n'a pas du tout eu l'intuition de ça. C'est-à-dire que c'est là où c'est très, très étonnant. C'est-à-dire qu'on y était. Moi, le directeur du Monde de l'époque, Jean-Marie Colombani, m'a envoyé là-bas avec toute une équipe. On a effectivement... transformer ce qui était un portail en site internet d'information, lemonde.fr. Mais on était au fin fond du 19e.
Vous n'imaginiez pas que c'était une anticipation révolutionnaire?
Non, parce que, si vous regardez bien, si, on imaginait que c'était important. Mais moi, ce qui m'intéresse quand j'ai la mémoire de ça, c'est que à chaque fois, on va dire le numérique, pour parler comme ça, on s'est aperçu qu'on était toujours un temps en retard sur ce que ça signifiait. C'est-à-dire qu'au tout début, on se disait, tiens, alors... L'équipe d'abord qui faisait ça pour Le Monde, qui a créé lemonde.fr, c'était une équipe qui venait du Minitel, rendez-vous compte. Donc on se disait, tiens, c'est une nouveauté technique.
Oui, il faut gravir l'escalier.
Donc on s'est dit,
marche
tiens,
par marche.
C'est une nouveauté technique. Ok, c'est sympa. Tiens, c'est pas une nouveauté technique, c'est un nouveau média. Et à l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelait Une presse sans Gutenberg, qui disait, attention, Internet, ça va révolutionner le journalisme, l'information. Puis on s'est dit, oh là là, non, c'est pas seulement un nouveau média. Donc, vous voyez, le repère historique, là, c'est la création de la télévision et la création de l'Internet. On s'est dit, non, non, non. Là, franchement, il se passe quelque chose d'autre. La société des données, la société numérique. Et donc, il faut se mettre par rapport au 19e siècle à la société industrielle. Et puis là, maintenant, on se dit, non, 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 c'est par rapport à l'invention de l'imprimerie. Donc là, c'est carrément 16e siècle et puis au nôtre. Et puis, vous avez les transhumanistes qui disent même, Voilà, c'est la création d'une nouvelle humanité. Donc là, il va falloir se remonter à Homo sapiens pour voir quelle est la dernière césure. Et donc nous, si vous voulez, on savait que c'était quelque chose qui se passait. Par rapport à ceux qui disaient « il ne se passe rien », on se disait « non, non, ça va vraiment changer ». C'est le, ben je l'ai raconté dans une presse en Gutenberg, c'est le 11 septembre 2001 qu'on s'est rendu compte qu'en fait, cette chose qu'on faisait, ça allait vraiment très fortement, très durement modifier tout cet univers-là. C'est-à-dire que avant, moi j'ai écrit quelque chose à l'époque, avant le 11 septembre 2001, où on se disait, on rajoute quelque chose de totalement nouveau.
Oui, c'est ça.
Et alors, à partir d'après, on s'est dit, oh là, ça rajoute quelque chose de quelquement nouveau, mais ça va avoir des conséquences assez fortes sur le monde.
Puisque tout le monde a suivi. Alors, Bruno Patino, votre vision du développement numérique, comme d'ailleurs du développement éditorial, vous l'avez ensuite imposée à France Culture, vous l'avez imposée à France Télévisions, à La 5, et aujourd'hui donc à Arte, dont vous êtes le président. Arte, d'ailleurs, qui connaît les parts d'audience les plus hautes de son histoire. Arte, c'est une chaîne culturelle franco-allemande, et au début de son histoire, les choses n'étaient pas aussi simples qu'on peut l'imaginer, car il y avait en France une germanophobie assez forte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vu le succès de la chaîne, il faut parler vrai, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Arte est le symbole de la réconciliation de la France et de l'Allemagne au travers de la culture ?
En tout cas, c'est la preuve que ces deux peuples ont des choses à se dire,
n'est-ce pas,
et des choses à faire ensemble. Donc la vous avez raison, hein, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une histoire curieuse, Arte. C'est créé à la veille de la réunification allemande, on en parlait, par une décision politique entre François Mitterrand et Helmut Kohl. C'est on va créer un outil, mais on y apporte en plus quelque chose qui s'appelait la SET à l'époque, qui était un espèce d'atelier d'innovation audiovisuelle. Et puis, c'est devenu une réalité tangible. Et est-ce que c'est le symbole de la réconciliation ? En tout cas, c'est le symbole de la proximité entre ces deux peuples et aussi la traduction d'une proximité qui n'est pas une confusion. C'est-à-dire, ce sont deux peuples très différents. Nous travaillons à Arte, Arte Allemagne, Arte France. On travaille en interaction permanente et on s'aperçoit au jour le jour à quel point nos visions du monde ne sont pas étrangères l'une à l'autre, mais sont différentes. Et donc, c'est de faire de ces deux regards, non pas identiques, mais un peu décalés, une richesse particulière pour dire, ben voilà, quand on vous propose des documentaires ou des fictions, etc., c'est des choses qui sont pensées ou faites ou écrites avec au minimum ce double regard. Je dis au minimum parce que depuis, le regard franco-allemand s'est étoffé par une approche un peu plus européenne.
Bien sûr, parce que le site d'Arte propose des programmes sous-titrés en 6 langues. Il s'adresse à 70% des Européens dans leur langue maternelle. J'ignorais que c'était à ce point. Et puis Arte, bon, est de plus en plus regardé par un nombre de gens très très différents et de plus en plus jeunes, avec des contenus d'ailleurs qui offrent une respiration intelligente, j'ai envie de dire, par rapport au programme des autres chaînes qui sont dominées par le modèle américain. Et puis vous allez très loin dans les innovations. On a parlé de ce fameux concert en métaverse. C'est quelque chose de tout à fait fou, c'est unique.
Oui, mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, depuis le début, il y a cette idée qu'on veut être différent.
Ouais.
On est différent dans notre naissance, on l'a dit. On est différent aussi parce que simplement quand vous êtes franco-allemand, vous ne pouvez pas multiplier ou faire beaucoup d'émissions qu'on appelle de plateau avec des gens qui parlent entre eux. Simplement parce qu'il y en a certains qui parlent français et allemand.
Allemand.
Et s'il y a un moment donné, on voit bien que si on fait... c'est pas un choix philosophique, c'est une contrainte en réalité. Parce que comme vous devez... Donc forcément, dès le début, vous faites des récits. Donc des documentaires, des fictions, du cinéma. Et puis peu à peu, on s'aperçoit que dans un monde qui s'accélère, où il y a de plus en plus d'émissions de plateau, etc., il y a une appétence très forte pour des récits. Et nous, ça n'a de sens que si on fait des récits différents. Ils sont différents parce qu'on l'a dit, il y a plusieurs regards dedans. On essaye qu'ils soient différents aussi par les sujets qu'ils traitent à un moment donné. Vous l'avez très bien dit, quand vous parlez de respiration, c'est un très beau mot que je vais reprendre plus tard. Moi, je dis toujours, on essaye de décélérer. C'est-à-dire que l'accélération permanente des médias, de la société, on a parlé du numérique, etc., tout ça. Nous, on veut être vraiment, vraiment, on veut prendre du temps pour dire les choses, les raconter, pour en donner à ceux qui nous regardent. Moi, je crois que vraiment, c'est là où on se situe à l'inverse, on va dire, de ce que je pensais être la transaction invisible des réseaux sociaux dont on parlait au début. C'est-à-dire, je pense que les réseaux sociaux vous disent « je te prends ton temps pour t'en faire gagner, donc ça te permet d'accélérer toutes les choses, pourquoi pas ?» Nous, on dit « nous, on prend notre temps pour poser les récits, et comme ça, ça va vous donner du temps pour les comprendre, pour développer votre imaginaire, pour prendre des chemins de traverse. » Mais tout ça se fait aussi avec une appétence pour l'époque. Je veux dire, nous, on veut vraiment éviter... l'idée qu'on serait une espèce de monument historique passé,
ah bah oui.
Les marges et l'innovation, ça nous doit toujours intéresser.
Et vous dirigez magistralement, en fait, un média qui est à l'opposé du territoire dont vous êtes addict. Arte, c'est une chaîne où on peut être dans le temps long, infusé d'intelligence, de connaissances, de curiosité, mais dans le temps long. Et ça fait beaucoup de bien.
Bah, moi, je crois beaucoup au temps long. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une appétence, comme je vous le disais tout à l'heure, ces deux choses-là, cette demande que je ressens, c'est-à-dire, un, on veut avoir du temps, et deux, on veut avoir le choix. C'est-à-dire un choix qui ne soit physiquement possible à faire. Et donc, on essaye très modestement de donner ça sur tous les outils où on aille. C'est-à-dire que ça soit sur la chaîne de télévision linéaire, sur notre plateforme arte.tv, ou sur les chaînes sociales dans l'univers social. Donc, on essaye de faire ça, même quand on fait un concert dans le métaverse, même quand on va sur Instagram, même quand on est extraordinairement puissant sur YouTube. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que quand les gens de YouTube nous appellent, ils nous disent « c'est incroyable, vous êtes, vous, Arte, un des acteurs, peu importe si c'est une chaîne de télévision, une chaîne de radio, etc., qui a le temps d'écoute ou le temps de visionnage le plus long. » Et bien ça me va.
Alors... l'homme va se dématérialiser à la fin du siècle. La société sera structurée par les principes du transhumanisme. Ça y est, on en parle. Hein. Transhumanisme qui organisera une sélection chez les humains. Les élites seront constituées d'hommes augmentés, donc surpuissants et indestructibles. Et au bas de l'échelle, on aura l'humain classique, fragile et mortel. Là, je fais le pire scénario. Oui, j'attends votre réponse.
Oh, mais quelle horreur hein. Non, je ne crois pas du tout.
Il faut toujours envisager le pire.
Il faut toujours envisager le pire. D'accord, mais si vous voulez, je pense que, paradoxalement, moi j'ai toujours pensé que le discours sur le transhumanisme, vous savez, on va être capable de télécharger votre cerveau à un moment donné pour le garder, ou alors allons dans l'espace ou allons ailleurs, c'est une façon de présenter ces acteurs technologiques et économiques comme si puissants qu'on ne peut rien faire contre eux, en fait. C'est-à-dire des gens qui seraient capables, à un moment donné, de transformer l'être humain, de transformer l'espace et autres. Ce sont des quasi-dieux, et donc on serait totalement impuissant face à eux. Et donc moi, j'ai toujours pensé que ce discours totalement apocalyptique, qui a des fondements... Hein,
puisque... Oui, parce qu'on connaît les laboratoires en Chine en Amérique du Sud, où on travaille,
on est tout à fait
n'est-ce
d'accord.
pas, sur le transhumanisme, avec des résultats qui déjà sont inquiétants.
On est tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, je pense que déjà, essayons de construire une société numérique qui soit un tant soit peu harmonieuse avec les outils de maintenant, sans trop se préoccuper de la façon dont ils pourraient revoir l'être humain. Parce que l'augmentation de l'être humain, ça a lieu petit à petit, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais de là à arriver à son changement de nature, on n'y est pas encore totalement, je crois. Donc moi, je vais vous paraître bien décevant.
Oui, mais la nature de l'être humain est-elle si pacifique ?
Non, elle ne l'est pas. Mais encore une fois, je quand vous regardez aujourd'hui les promesses, parce que j'ai participé aussi comme ça à des conférences où les gens en charge... du transhumanisme chez Google, vous expliquez effectivement ce fameux téléchargement du cerveau bientôt, etc.
Téléchargement du cerveau.
Oui, c'est-à-dire cette idée de se dire bah, bientôt, sachant que bientôt pour eux, on ne sait pas quand, ce que ça veut dire, on sera capable de reconstituer sur un disque dur l'ensemble des interactions qui se passent dans votre cerveau. On est encore très très loin hein, quand vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mur, une sorte de mur incompressible qui n'est pas franchi. Donc moi, ce qui est sûr, là où je vous rejoins, c'est que la multiplication et la démultiplication de la puissance de calcul est vertigineuse et que ça a des impacts.
C'est pour ça qu'un jour, les machines n'auront plus besoin de l'homme. Pour l'instant, l'homme a besoin des machines, mais...
Mais ça dépend pour quoi faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est bien d'accord pour les tâches répétitives, pour énormément de choses, la planification, l'organisation, etc., le calcul, tout ça... L'augmentation exponentielle de la puissance de calcul, c'est une certitude. La façon dont l'homme se définit par rapport à cette augmentation de la puissance de calcul reste à construire. Donc je crois que, si vous voulez, la ligne de fuite ou le point de chute d'un transhumanisme, j'entends les discours, je les lis, je suis peut-être totalement naïf là, en revanche, contrairement au reste, je pense qu'il nous reste quand même beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver dans cette fin de l'humanité.
Alors, la création par les algorithmes. Tout à l'heure, on parlait de la littérature, on a parlé de la musique, justement, créée par des algorithmes. Mais alors, la beauté qui est si subjective dans le regard de l'homme, par l'intelligence artificielle, forcément, elle sera normée.
Non, mais c'est là où, en fait, vous mettez le doigt parfaitement sur la limite de la chose. C'est-à-dire que même pour le moment, en tout cas, dans toute création faite par des intelligences artificielles, nous avons toujours, alors si je puis simplifier les choses, un air de déjà-vu. C'est normal parce que la machine apprend, même quand c'est... Alors il y a plusieurs façons de développer une intelligence artificielle, hein, mais même quand la machine obéit à ce qu'on appelle un réseau neuronal, c'est-à-dire quand elle ne fait pas qu'apprendre par la répétition, mais qu'elle progresse d'une certaine façon par l'interaction, si je dois simplifier ça, malgré tout ce qu'elle produit en termes d'écrit, en termes musical, en termes pictural, hein, aujourd'hui une machine peut peindre à la mode 2, ça vous donne toujours un air de déjà-vu. Donc, je crois que les grandes étapes de la création artistique humaine, c'est justement quand vous avez un air de jamais vu, de jamais entendu. Et nous savons, vous comme moi, que la beauté n'est pas réductible à la perfection ou à la régularité des traits, ou même à la répétition d'une beauté déjà passée. C'est quelque chose d'assez intangible, et donc d'assez, on en revient toujours là, d'assez incalculable en réalité. Et donc, que les machines puissent produire effectivement... des chansons qui ressemblent à une chanson Lennon-McCartney au kilomètre. Oui, peut-être, mais ça ne produira jamais l'effet d'une chanson Lennon-McCartney quand vous l'écoutez pour la première fois, parce qu'elle n'a jamais été composée avant.
Voilà. Vous pensez que les peuples migreront un jour vers une autre planète ? Je ne parle ni des scientifiques, ni des élites, hein, mais bien des populations.
Non. Non, on est là où on est. Si vous voulez, quand vous regardez même... on va parler de choses, mais je suis bien placé pour savoir, au regard de mon père, que chacun qui quitte son pays vit un déracinement profond, qu'il soit mû par la volonté de s'installer dans un autre pays, qu'il soit obligé de le faire pour des conditions économiques ou politiques, il y a un déracinement.
Et pourtant, le ciel est le même pratiquement sous toutes les latitudes.
On est bien d'accord.
Alors là,
imaginez-vous. Cette sensation de déracinement sur la Lune,
mais dans l'obscurité.
On vous proposerait aujourd'hui d'y aller, vous n'iriez pas.
Non.
Et donc, l'être humain est profondément enraciné là où il est. Et je pense qu'on va d'abord s'attarder à améliorer cette planète plutôt qu'aller en conquérir d'autres.
Bruno Patino, quel grand projet en ce moment retient toute votre énergie et vos espérances sur Arte, qui reste la chaîne qui parle le plus aux aspirations des Homo sapiens, hein ?
Mais,
et pas de l'Homo numericus.
Pour moi, c'est vraiment c'est le moment. On a les équipes, hein, parce que moi j'y suis pour peu de choses. Les équipes ont réussi à faire de cette chaîne autre chose qu'une chaîne, c'est-à-dire... Il y a une chaîne d'un côté, il y a la plateforme aujourd'hui qui est très forte, et il y a les chaînes sociales. À en cultiver la différence par rapport au reste des productions audiovisuelles, et surtout à en faire un instrument, et je le dis très, très humblement, au service de ceux qui la regardent, donc au service de l'imaginaire de ceux qui la regardent, ou au service des clés de compréhension de ceux qui la regardent. Donc cet outil, cette nécessité qu'on veut de rendre accessible la complexité ou la beauté du monde, je crois que les équipes y arrivent. Le grand projet pour nous, c'est de changer de dimension.
C'est-à-dire une diffusion mondiale ?
Non, mais
puisque vous êtes diffusé dans toute l'Europe.
Oui, mais vraiment européenne. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une taille plus significative pour aller de façon plus significative à la rencontre des autres peuples de l'Europe. Ça va vous paraître étrange, mais je disais, dans l'origine d'Arte, il y a une volonté politique. Nous, on est le produit d'un traité international. Et dans ce traité international, il est marqué, rien de moins, qu'on doit contribuer au rapprochement des peuples par la culture. Eh bien, je pense que notre grand projet, c'est de s'approcher de ça.
Eh bien, voilà. Donc, je n'avais pas tort de poser la question tout à l'heure, alors, en disant que c'était justement le symbole de la réconciliation franco-allemande, déjà dans un premier temps.
Oui, dans un premier temps, mais si vous voulez parler d'Europe et de rapprochement des peuples d'Europe par la culture, il y a 20 ans, ça paraissait de l'eau tiède. Mmh. Dans le contexte actuel qui est le nôtre, je pense que c'est un projet sacrément combattant.
Bien sûr, bien sûr. C'était passionnant de vous écouter. Je rappelle que sont parus chez Grasset « Tempête dans le bocal » qui était précédé par « La civilisation du poisson rouge ». Merci infiniment Bruno Patino.
C'est moi qui vous remercie.
Et cette émission, cet entretien est à réécouter en podcast sur le site d'Europe 1.fr. À très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.